Monde virtuel des trois corps. Deux étoiles volantes traversaient lentement l'océan d'étoiles. Tout sur la Terre était plongé dans l'obscurité et, au loin, l'horizon se fondait dans la noirceur du ciel. Au cœur de ces ténèbres retentit soudain une salve de murmures, bien qu'on ne distinguât aucun de ceux qui les prononçaient. Les voix paraissaient provenir de créatures invisibles flottant dans le noir. Un léger craquement se fit entendre, une petite flamèche apparut dans la pénombre, dont le faible halo révéla trois visages. Ceux de Tsin Chi Wang, Aristote et Von Neumann. La lumière provenait du briquet d'Aristote. Quelques torches furent tendues, et Aristote en alluma une, qui fut transmise à d'autres, et bientôt, une clarté vacillante illumina une foule de personnages de différentes époques. Les chuchotements n'avaient pas cessé. Tsin Chi Wang se hissa sur un rocher, leva sa longue épée et intima à la foule de se taire. « Les dieux nous ont donné un nouvel ordre. Éliminez le colmateur Luoji. Nous aussi, nous avons reçu cet ordre. C'est le deuxième donné par les dieux pour assassiner Luoji, » dit Mozi. « Mais c'est devenu difficile aujourd'hui, » lança quelqu'un. « Difficile ? Dites plutôt absolument impossible ?» Si Evans n'avait pas ajouté à l'époque une condition supplémentaire, il serait mort depuis 5 ans. Evans avait sans doute ses raisons, après tout nous ne connaissons pas la vérité. Luoji est un homme chanceux, le sort l'a aussi épargné ce jour-là sur la place des Nations Unies. Tsin Chi Wang fit des moulinets avec son épée pour les faire taire. Parlons plutôt de ce que nous allons faire. Il n'y a rien que nous puissions faire. Qui pourrait approcher un bunker à 200 mètres sous terre? Sans parler d'y entrer, c'est bien trop protégé. Balancer une bombe nucléaire? Absurde! C'est un abri anti-atomique qui date de la guerre froide. La seule solution envisageable, c'est d'infiltrer l'équipe de sécurité. Est-ce encore possible? Ça fait tant d'années que nous essayons. Avons-nous jamais réussi? Alors, la cuisine! Cette proposition souleva quelques rires. Arrêtons de raconter n'importe quoi! Les dieux devraient plutôt nous dire la vérité. Nous arriverions peut-être à trouver une meilleure solution. Tsin Chi Wang répondit à la dernière prise de parole. J'ai déjà eu l'occasion d'adresser cette requête, mais les dieux m'ont répondu que la vérité était le secret le plus important de l'univers et qu'il ne devait en aucun cas être divulgué. S'ils en avaient jadis parlé à Evans, c'est qu'ils pensaient que l'humanité connaissait déjà ce secret. Alors que les dieux nous transmettent au moins leur technologie!
Beaucoup de voix approuvèrent cette demande.
Cela aussi je l'ai demandé, reprit Tsin Chi Wang. Et contrairement à ce à quoi je m'attendais, les dieux n'ont pas opposé un refus catégorique comme à leur habitude.
La foule fut parcourue par un frisson d'excitation, mais il fut aussitôt tempéré par les paroles de Tsin Chi Wang.
Cependant, quand les dieux ont pris connaissance du lieu où se trouvait la cible, ils ont aussitôt rejeté cette option en disant que la technologie qu'ils pouvaient nous transmettre serait inefficace.
Est-il vraiment si important, en fin de compte ?
Demanda Von Neumann, incapable de dissimuler une pointe de jalousie dans sa voix. En tant que premier fissureur à avoir réussi sa mission, il avait connu une ascension rapide au sein de l'organisation.
Les dieux ont peur de lui.
J'y ai longuement réfléchi, dit Einstein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule raison capable d'expliquer la peur qu'inspire Luoji aux dieux. Il est le porte-parole d'une certaine puissance.
Tsin Chi Wang étouffa la discussion qui allait se poursuivre autour de ce sujet.
Ne parlons pas de tout ça et continuons à réfléchir à la manière dont nous allons satisfaire l'ordre des dieux. Nous ne pouvons pas. C'est vraiment impossible, c'est une mission vouée à l'échec.
Tsin Chi Wang frappa d'un coup d'épée le rocher sous ses pieds.
Cette mission est capitale. Les dieux sont peut-être en danger. Songez aussi que si nous menons à bien cette mission, l'organisation sera largement reconsidérée à leurs yeux. Comment se pourrait-il que tant de génies issus de différents domaines et de différentes régions du monde, réunis ici, échouent à trouver un moyen? Rentrez chez vous et réfléchissez. Puis envoyez-moi vos plans. C'est une affaire qui doit être traitée en urgence.
Les torches finirent par se consumer les unes après les autres. Bientôt, tout fut à nouveau englouti par l'obscurité, tandis que les murmures se poursuivaient. L'audience du collimateur Luoji par le Conseil de défense planétaire n'eut lieu que 2 semaines plus tard. Depuis l'échec de Taylor et l'hibernation des 2 autres collimateurs, le CDP avait concentré ses actions et son attention sur les projets de défense classiques. Luoji et Kent patientaient dans le bureau de visioconférence. La connexion avait été établie avec le CDP et la salle de conférence était visible sur le grand écran. Autour de cette grande table circulaire, bien connue des habitants de la planète depuis l'époque du Conseil de sécurité, les sièges étaient encore inoccupés. Si Luoji était arrivé plus tôt, c'était pour contrebalancer quelque peu l'irrévérence de ne pas avoir pu être présent sur place. En discutant avec Kent pour faire passer le temps, il lui demanda s'il s'était fait à sa nouvelle vie. Kent lui expliqua qu'il avait passé 3 années de sa jeunesse en Chine, qu'il était familier de cet environnement et que tout allait bien pour lui. Contrairement à Luoji, il n'était pour sa part pas obligé de vivre toute la journée sous terre. Ces derniers temps, son chinois mandarin un peu rouillé était redevenu plus fluide. « Vous êtes enrhumé ?» l'interrogea Luoji. « Je pense avoir la grippe volatile, » répondit Kent. « Vous voulez dire la grippe aviaire ?» s'étonna Luoji. « Non, la grippe volatile, c'est comme ça que les médias l'appellent. Elle a commencé à se propager dans une ville voisine il y a 1 semaine. Elle a un taux d'infection important, mais ses symptômes sont très légers. Aucune fièvre, juste le nez qui coule. Certains malades ont un peu mal à la gorge, mais on en guérit automatiquement en 3 jours environ, sans avoir besoin de prendre des médicaments.
Les grippes sont généralement plus graves que ça.
Pas cette fois. Beaucoup de soldats et d'employés qui travaillent ici ont été contaminés. Vous n'avez pas remarqué que nous avions remplacé la femme de ménage? Elle aussi a attrapé la grippe volatile. Nous craignons qu'elle ne vous la transmette. Mais étant votre contact avec le CDP, je ne suis pas remplaçable.
Sur l'écran, ils virent les représentants nationaux entrer progressivement dans la salle. Ils s'assirent et échangèrent quelques mots à voix basse, comme s'ils n'avaient pas remarqué la présence de Luoji. Le président tournant du Conseil de défense planétaire annonça le début de la réunion.
Collimateur Luoji, lors de la dernière session extraordinaire des Nations Unies, la législation du programme collimateur a été modifiée. Vous avez dû en prendre connaissance.
Oui, répondit Luoji.
Vous avez donc certainement noté qu'elle renforçait le pouvoir de supervision du CDP et restreignait le budget mis à disposition des collimateurs. J'espère que le plan que vous allez soumettre au cours de cette audience sera conforme à ces nouvelles exigences.
Monsieur le Président, les 3 autres collimateurs ont déjà affecté des ressources colossales à l'exécution de leur plan. Limiter celles concernant mon projet me semble injuste.
Le droit de mobiliser des ressources dépend de votre plan. Vous devez avoir remarqué que les projets des 3 autres collimateurs n'entrent pas en contradiction avec les projets de défense classiques. Sans leur plan, ces recherches et ces travaux auraient été entrepris tôt ou tard. Nous espérons que votre plan stratégique s'inscrit lui aussi dans cette logique.
Je regrette, mais ce n'est pas le cas. Mon plan n'a aucun lien avec les projets de défense en cours.
Alors je le regrette également. Selon la nouvelle législation, les ressources que vous pourrez mobiliser seront limitées.
Même dans l'ancien programme, les ressources que j'avais à disposition étaient restreintes. Mais, monsieur le Président, ça ne fait rien car le budget de mon plan est dérisoire.
Comme pour votre dernier plan?
La remarque du président suscita le ricanement de quelques participants.
Et il sera encore moins onéreux. Comme je viens de vous le dire, mon budget est dérisoire, répéta simplement Luoji.
Nous vous écoutons,
dit le président en l'invitant à parler d'un hochement de tête.
Les détails techniques de ce plan vous seront présentés par le docteur Abbott Ringer. Même si je crois que chacun des représentants présents a déjà en sa possession le dossier correspondant. Pour en donner un résumé, il s'agit d'utiliser la fonction amplificatrice des miroirs solaires pour envoyer un message dans le cosmos. Ce message ne contiendra que 3 figures simples, ainsi que quelques informations supplémentaires prouvant que ces images ont bien été émises par une espèce intelligente et non formée naturellement. Les figures dont il est question sont consultables dans le dossier transmis à l'occasion de cette audience. On entendit dans la salle de réunion un bruissement de papier. Les représentants trouvèrent très vite les trois feuilles correspondantes. Les images s'affichèrent également sur l'écran. Elles étaient très simples. Sur chacune d'entre elles ne figuraient que des points noirs qui semblaient répartis aléatoirement. Les participants notèrent qu'un point dessiné sur chaque image apparaissait plus clairement que les autres et qu'il était désigné par une petite flèche.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda le représentant américain tout en observant minutieusement le dessin à l'instar du reste des participants.
« Collimateur Luoji, conformément au principe de base du programme Collimateur, vous avez le droit de ne pas répondre à cette question, »
précisa le président. « C'est une malédiction. » lâcha Luoji. Les froissements et les murmures s'interrompirent brutalement. Tous levèrent la tête dans la même direction, ce qui permit à Luoji de savoir où se trouvait la position de l'écran retransmettant son image.
« Qu'avez-vous dit ?»
demanda le président en plissant les paupières.
« Il a dit que c'était une malédiction, »
répéta quelqu'un à voix haute autour de la table circulaire.
« Une malédiction contre qui ?»
demanda le président. « Contre toutes les planètes du système de l'étoile 187J3X1. Bien sûr, elle pourrait aussi avoir des effets directs sur l'étoile elle-même. »«
Quel genre d'effet ?»«
Nous l'ignorons pour l'instant. Mais une chose est certaine, les effets de la malédiction seront catastrophiques. »«
Y aurait-il de la vie sur ces planètes ?»«
J'ai consulté plusieurs astronomes à ce sujet. » À partir des données aujourd'hui à notre disposition, il semblerait que non. » À ces mots, Luoji lui aussi plissa les paupières en priant silencieusement au fond de lui, et pourvu qu'ils aient raison.
« Une fois cette malédiction envoyée, au bout de combien de temps se manifesteront ces effets ?»«
L'étoile 187J3X1 est située à environ 50 années-lumière du Soleil. C'est pourquoi ces effets n'auront lieu au plus tôt que dans 50 ans. » Mais nous ne pourrons en observer la trace que dans un siècle. Néanmoins, c'est une estimation courte, cela prendra peut-être beaucoup plus de temps. » Après un moment de silence dans la salle, le représentant américain fut le premier à réagir. Il jeta les trois feuilles où étaient imprimés les points noirs sur la surface de la table.
« Excellent ! L'humanité a enfin un dieu ! Un dieu caché dans un bunker !»
compléta le représentant britannique, déclenchant une volée de rires dans la salle.
« Je dirais plutôt un sorcier !»
toussa le représentant japonais. Le Japon n'avait jamais pu intégrer le Conseil de sécurité, mais il avait été admis dès sa fondation dans le Conseil de défense planétaire.
« Docteur Luoji, vous avez au moins réussi à rendre votre plan étrange et déroutant !»
affirma Garanin, le représentant russe, qui avait été président du CDP 5 ans plus tôt, à l'époque où Luoji avait été désigné collimateur. Le président donna un coup de marteau en bois sur la table pour faire cesser la cacophonie de la salle.
« Pourquoi ne pas l'envoyer directement vers le monde ennemi ?»
demanda-t-il. « Ce n'est qu'une démonstration, » expliqua Luoji. « Je ne mettrai véritablement mon plan à exécution qu'au moment de l'ultime bataille. »
« Trisolaris ne pourrait-elle pas être utilisée comme cible pour cette démonstration ?»
Luoji secoua la tête, inflexible. « Non, c'est irrévocable. Trisolaris est trop près. Les effets de la malédiction risqueraient de nous toucher. C'est la raison pour laquelle j'ai exclu tous les systèmes planétaires dans un rayon de 50 années-lumière. »
« Une dernière question. Pendant les 100 prochaines années, voire plus, qu'allez-vous faire ?»
« Vous allez être débarrassé de moi. Je vais hiberner. Vous me réveillerez lorsque vous aurez détecté des effets sur le système 187J3X1. » La période durant laquelle Luoji se préparait à entrer en hibernation, il fut atteint de la grippe volatile. Les premiers symptômes furent les mêmes que chez les autres malades, un simple nez qui coule et une légère inflammation de la gorge. Si bien que ni lui ni personne d'autre n'y accorda d'importance. Mais 2 jours plus tard, la maladie s'aggrava et il commença à avoir de la fièvre. Le médecin comprit que quelque chose était anormal et il lui préleva un échantillon de sang qu'il envoya faire analyser en ville. Luoji passa la nuit dans une torpeur fiévreuse. en proie à des rêves violents et répétés dans lesquels les étoiles tourbillonnaient dans un ballet incohérent comme des grains de sable sur la peau d'un tambour vibrant. Il était même conscient qu'en raison de l'interaction gravitationnelle entre les astres, il ne suivait pas les mouvements d'un système à trois corps, mais bien des 200 milliards de corps de la Voie lactée. Puis cet océan confus d'étoiles fusionna en un titanesque maelstrom qui, emporté par un tourbillon de folie, se métamorphosa en un serpent géant et argenté formé par la condensation des étoiles, dont les rugissements perforèrent son cerveau. À 4 heures du matin environ, Chang Xiong fut réveillé par la sonnerie de son téléphone. C'était le chef de la sécurité du Conseil de défense planétaire. Sa voix était grave. Il demanda immédiatement un rapport sur l'état de santé de Luo Ji et ordonna que l'état d'urgence soit décrété dans la base. Une équipe d'experts était en route. Chang Xiong venait à peine de reposer le combiné que le téléphone sonna à nouveau. C'était le médecin du 10e étage souterrain qui lui indiqua que l'état du malade avait empiré et qu'il était maintenant en état de choc. Chang Xiong se hâta de descendre en ascenseur et l'infirmière et le médecin paniqué lui rapportèrent que Luo Ji avait commencé à vomir du sang au milieu de la nuit et qu'il était dans un coma dont on n'arrivait pas à le soustraire. Chang Xiong vit Luo Ji allongé sur le lit. Son visage était pâle, ses lèvres violettes, et on ne constatait presque plus aucune trace de vie sur son corps. L'équipe d'experts, composée d'un spécialiste du Centre national de gestion des épidémies, d'un médecin de l'Armée populaire de la Libération, ainsi que de membres d'un groupe de recherche de l'Académie des sciences médicales de l'armée, arriva rapidement sur les lieux. Tandis qu'on l'examinait, un expert de l'Académie des sciences médicales entraîna Chang Xiong et Kent à l'extérieur pour leur décrire la situation. Cela fait quelque temps que cette vague de grippe retient notre attention. Nous trouvions ses caractéristiques et son foyer très peu communs. Nous avons maintenant la certitude qu'il s'agit d'une arme chimique, un missile génétique. Un missile génétique? Un virus génétiquement modifié, hautement infectieux, qui ne provoque que de légers symptômes chez la plupart des gens. Toutefois, ce genre de virus possède la faculté de reconnaître des génomes et il peut donc identifier les particularités génétiques d'un individu. Dès lors que la cible est contaminée, le virus libère des toxines mortelles dans son organisme. Nous savons maintenant qui était la cible. Chang Xiong et Kent échangèrent un regard. Ils furent d'abord saisis d'incrédulité avant de sombrer dans le désespoir. Le visage de Chang Xiong blêmit et il baissa la tête. J'en assume l'entière responsabilité. Le chercheur, un senior colonel, le réconforta. Directeur Chang, il était impossible de parer à cela. Nous avons certes eu quelques suspicions au début, mais nous n'avions jamais, jusqu'à récemment, considéré cette possibilité. Le concept d'arme génétique est apparu au siècle dernier, mais personne n'aurait pu imaginer qu'on ait réussi à en fabriquer une, malgré l'imperfection relative de celle-ci. C'est une arme terrifiante pour assassiner quelqu'un. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de propager le virus dans la zone où se trouve votre victime, et le tour est joué. Il peut d'ailleurs ne même pas être nécessaire de cibler un périmètre précis. Il suffit de le répandre à l'échelle planétaire, car si ce genre de virus ne provoque que peu de symptômes, voire aucun chez un individu lambda, il peut néanmoins se propager à une vitesse folle et finir par atteindre sa cible. Non. C'est mon entière responsabilité, fit Chang Xiong en se couvrant les yeux. Si le commissaire Shi avait été là, ce ne serait jamais arrivé. Il relâcha sa main. Ses yeux scintillaient de larmes. Juste avant de se faire hiberner, le commissaire m'a dit quelque chose au sujet de cette prétendue impossibilité à se prémunir contre toutes les menaces dont vous avez parlé. Il m'a dit, Xiao Chang, notre boulot c'est de ne dormir que d'un œil, parce que quoi qu'il arrive, nous ne pourrons pas dire que nous n'étions pas préparés.
Quelle est la prochaine étape ? Demanda Kent.
Le virus a déjà envahi une bonne partie de son organisme. Son foie, de même que ses fonctions cardiaques et respiratoires, est en défaillance. La médecine actuelle est impuissante, il faut l'hiberner, vite. Un certain temps après être tombé dans le coma, Luo Ji retrouva une partie de sa conscience.
Il était parcouru d'une sensation de froid glacial, un froid dont la source se trouvait à l'intérieur même de son corps et qui se diffusait à partir de lui comme la lumière pour congeler le monde entier. Il vit une plaine enneigée. Au début, ce n'était rien d'autre qu'un blanc infini, mais plus tard, au milieu du blanc, apparut un petit point noir. Peu à peu, il distingua une silhouette familière. C'était Chuang Yan avec leur fille dans les bras. Elle marchait avec difficulté sur cette étendue enneigée, si désolée qu'elle avait perdu tout relief. Une écharpe rouge était enroulée autour de son cou. Celle-là même qu'elle portait 7 ans plus tôt, la première fois qu'il l'avait imaginée durant cette nuit de tempête. Le visage de la petite était rougi de froid. Elle agrippait comme elle pouvait ses 2 petites mains à sa mère en lui criant quelque chose, mais il ne pouvait entendre sa voix. Il voulut courir les retrouver, mais la jeune mère et l'enfant disparurent brusquement comme si elles s'étaient dissoutes dans la neige blanche. Ce fut à son tour de disparaître, et ce monde immaculé se contracta en un mince fil de soie argentée qui, dans cette obscurité sans limite, constituait l'ensemble des fragments de sa conscience. C'était le fil du temps, immobile, qui s'étendait sans limite dans 2 directions opposées. L'âme de Luoji cheminait sur ce fil, glissant à une vitesse régulière vers un futur indéterminé. 2 jours plus tard, un faisceau d'ondes électromagnétiques à haute fréquence fut envoyé depuis la Terre vers le Soleil. Les ondes perforèrent la zone de convection, atteignirent les miroirs d'énergie de la zone de radiation solaire d'où, amplifiées plusieurs centaines de millions de fois, elles emportèrent à la vitesse de la lumière la malédiction du colmateur Luoji vers le cosmos.